Je m'appelle Hubert, je suis un alcoolique. Puis aujourd'hui, je suis content de le savoir parce que ça m'a permis de connaître un mode de vie qui s'avère être de mieux en mieux de jour en jour. Puis ça fait près de 30 ans que je suis dans l'alcoolique anonyme, puis que je fais des études de gros livres, je vais écouter des études de gros livres. Et puis ça n'a jamais arrivé que j'ai fait une étude, puis je suis la pire après que quand j'ai commencé. C'est tout le temps mieux. Ça fait que c'est sensationnel. On va commencer, si vous voulez bien, avec un moment de silence. On va avoir une pensée pour les personnes qui devraient être avec nous puis ne veulent pas l'être, puis aussi les personnes qui voudraient être avec nous puis n'ont pas la chance de l'être. Si vous voulez bien, comme on a parlé de la méditation beaucoup la semaine passée, on va prendre, juste pour vous montrer le temps que ça prend, on va prendre 30 secondes de méditation. Fait que si vous voulez bien tout, vous pouvez vous sentir confortable. On va juste prendre 30 secondes. Au bout de 30 secondes, je vais recommencer à parler. Fait qu'on va dans la méditation pour 30 secondes. Merci. Bien, rebonsoir tout le monde. Notre 30 secondes est fait. Je sais que vous l'avez tout fait aujourd'hui, mais peut-être que moi, je l'avais mal fait ou pas bien fait. Ça m'a permis de le refaire. Je vous remercie infiniment. La semaine passée, bon, on a parlé beaucoup de l'étape 11. J'ai fait un résumé. J'ai un résumé de chaque étape que je fais. J'essaie de revenir là-dessus un peu toutes les semaines. L'étape 11, c'est surtout sur la prière et la méditation. L'étape 11, je dis toujours, moi, c'est le complément de l'étape 3. L'étape 3, on a connu un être suprême, on lui a redonné ça entre les mains, puis ils nous ont dit, si imparfait que soit-il, c'est assez pour commencer. Puis rendu à l'étape 11, on est rendu avec une perfection, peut-être pas 100%, mais une pas mal meilleure définition de cet être suprême-là, qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut se fier à cet être suprême-là, puis qu'on n'a pas de misère à redonner notre vie. À tous les jours, il faut le faire. On a un répit quotidien, tous les jours. Puis si on a oublié de le faire au début, puis ça va mal, on le fait au milieu de la journée, mais on remet notre vie à cet être suprême-là, ce Dieu, cette compréhension-là qu'on a de Dieu qui devrait être différent que quand on est arrivé à l'alcoolique anonyme. L'étape 11, bien, c'est une jugère de la prière et de la méditation. Puis ils nous disent que ça donne des résultats. Et ceux qui n'ont pas de résultats, c'est qu'ils ne l'ont pas fait assez. Puis souvent, c'est si on a peur ou on pense qu'il faut faire ça 2 heures de temps. On l'a dit la semaine passée, on peut commencer avec 30 secondes. Puis si 30 secondes, c'est trop long, faites-le 10 secondes. Faites-le comme vous voulez, mais faites-le tranquillement, puis vous allez vous ajuster, vous allez finir par aimer ça. Il nous fait des suggestions claires et utiles pendant toute la journée, cette étape 11-là. T'sais, avant de se coucher le soir, on dit on revise notre journée, on entend le positif et le négatif, pas juste le négatif. Même si c'est juste des pensées positives, on va y marquer pour pas qu'on devienne négatif trop. Puis si on a fait du mal, bon, on va en parler avec quelqu'un, on va parler notre parrain, notre marraine, notre guide spirituel, que je voulais dire. Et puis, on va essayer de réparer le tort aussitôt qu'on peut. Hein? On va demander à Dieu qu'il nous guide puis qu'il nous aide à ne plus commettre ces erreurs-là. Puis là, à notre réveil le matin, bien, on demande à Dieu de nous guider puis de nous libérer de l'apitoiement, de la malhonnêteté, de nous libérer de nos péchés capitaux, les péchés qu'on commet le plus ou les défauts qu'on a les pires. On va demander qu'il nous délivre de ça pour la journée. Okay? Égoïste. Puis il nous dit, ainsi, notre esprit sera plus élevé. Puis au moment de planifier notre journée, c'est là qu'on fait notre méditation, on veut commencer à faire la méditation en planant notre journée. Okay? On demande à Dieu de nous donner l'inspiration pour prendre la bonne décision. On reste calme, puis graduellement, cette méditation-là va nous apporter l'inspiration efficace. C'est là qu'on vient reconnaître Dieu de notre compréhension avec une inspiration efficace, que c'est plus facile de vivre notre vie. Demander à Dieu quoi faire dans chaque circonstance, puis nous fournir ce nombre d'avantages pour accepter la vie et ses problèmes, parce que, papa, je suis rendu 11e étape, je n'aurai plus de problèmes, la vie va continuer d'arriver dans ma vie, puis la vie, des fois, qu'elle est désagréable avec moi. Puis quand elle l'est, bien, je demande à Dieu de m'aider à l'accepter, de m'aider à passer à travers de ça. Et puis, il m'aide à passer à travers de ça. Ça n'a jamais arrivé qu'il ne m'a pas aidé. Des fois, ça prend plus de temps que l'autre. Des fois, on est impatient. On pense qu'on demande à Dieu de m'aider. Puis, deux secondes après, ça va être fait. Mais non, ce n'est pas toujours deux secondes après. Des fois, c'est deux minutes après. Des fois, c'est deux heures après. Des fois, c'est deux jours après. Mais ça n'a jamais arrivé que ça n'arrive pas. Ça l'arrive toujours si je mets ça entre les mains. Que je peux accepter la vie, puis les problèmes qu'elle m'emmène. On va être libéré de notre volonté, puis on va aller aider les autres et de nous libérer de nos défauts. Si on veut, on peut demander à notre chambre, notre femme, nos enfants de nous joindre dans notre période de méditation le matin. On peut faire ça, peut-être que tout le monde peut en profiter. Puis si on a des dévotions religieuses, si on fait partie d'une religion quelconque, on a des dévotions religieuses, on les fait en même temps. Mais on n'arrête pas de faire AA parce qu'on a des dévotions religieuses. AA est toujours là, puis on peut adapter notre religion à ça. Au cours de la journée, nous prenons une pause quand l'agitation et le doute s'emparent de nous. C'est quoi l'agitation puis le doute? C'est quand ça va mal. Ça ne va pas à ma manière d'un coup sec là, dans la journée. J'ai tout fait ce que je vais faire, puis ça va encore mal. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ils nous le disent. Au cours de la journée, nous prenons une pause. Quand l'agitation et le doute s'emparent de nous, pour nous demander de nous donner la bonne pensée et la bonne action. Je vais prendre un time out au lieu de me choquer après personne puis de dire des choses désagréables. Je vais dire, il faut que j'aille faire un téléphone, il faut que j'aille à la toilette et je te reviens là-dessus. On trouve n'importe quelle excuse pour ne pas négocier quand on est en colère ou quand on ne file pas bien à cause de ça. Faut demander à Dieu de nous donner la bonne pensée et la bonne action. Puis je me souviens tout le temps dans la troisième étape, il nous parle qu'on est dans une pièce de théâtre. Puis dans la pièce de théâtre qui est ma vie, je suis juste un acteur, puis souvent, je ne suis pas un bon acteur. Fait que ça m'amène toutes sortes de problèmes. Okay? Puis je demande que la volonté de Dieu soit faite. Puis on est moins exposé à prendre des décisions folles, à être guidé par la colère, l'inquiétude, la peur ou l'apitoiement. C'est ça qu'on est guidé quand on fait on devient excité et agité. On se fait guider par la peur, puis ça ne marche pas. Fait que ils nous disent quand on fait ça, qu'on prend un temps mort, bon, nous devenons plus efficaces. Nous laissons Dieu nous montrer la vie par cette simple méthode. Tu sais, les 97, 98, 99, ces trois pages-là, là, c'est notre mode de vie qu'on devrait avoir à tous les jours, qu'on devra suivre à tous les jours. On est rendu là à 11e étape, ça devient tellement simple. Puis dans le 12 par 12, bien, il nous parle de la page 109 à 115, il nous parle de la méditation. Puis dans le 116 à 120, il nous parle de la prière. Dans le 12 par 12, ils nous disent notre nouvelle croyance en Dieu. On a une nouvelle croyance, une croyance différente que ce qu'on avait. Il dit que la prière et la méditation, c'est un soutien vital pour notre esprit. Puis quand on relie l'étape 10 et 11 ensemble, c'est encore plus fort que les faire séparément. Okay? Ça forme une fondation inébranlable, puis ils nous disent qu'on peut être gratifié de l'ultime réalité. C'est quoi l'ultime réalité? C'est quand j'ai l'impression que j'ai le feeling que Dieu est réellement avec moi. C'est ça l'ultime réalité. Puis ça va venir. Si ça ne vous est pas arrivé, ça va vous arriver si vous continuez à faire des étapes. Ça va vous arriver. Plus vous allez le faire, plus vous allez en faire, plus ça va arriver souvent dans votre journée. Qu'on sent une libération, qu'on sent une sérénité qu'on n'a jamais eue avant. C'est ça l'ultime réalité. Puis ils nous disent que ça va durer tant qu'on va continuer à faire nos étapes, tant qu'on va pratiquer. Ça nous permet d'avoir par l'aide de Dieu. Ils nous montrent aussi comment méditer. Ils nous disent qu'on doit commencer par ça. Elle nous aide à visualiser notre objectif spirituel, d'aller voyager dans le royaume de l'esprit. C'est ça que la méditation va m'amener, voyager avec Dieu, je vais faire un avec lui. Puis éventuellement, si je ne le fais pas, éventuellement, je vais faire un avec Dieu. Peut-être pas toute la journée, mais des bonnes parties de la journée. Ça va continuer de plus en plus, le plus que je vais faire cette 10e et 11e-là qu'on composait ensemble. Améliorer notre contact conscient puis obtenir un équilibre émotif. C'est quoi un équilibre émotif? Bien, je ne fais pas des crises à tout bout de champ puis je ne tombe pas en dépression à tout bout de champ. J'ai des hauts puis des bas, mais ils sont pas mal moins hauts puis moins bas qu'étaient avant. C'est ça un équilibre émotif. Lorsque nous demandons à Dieu de régler nos problèmes et ceux des autres, pour ça c'est par la prière, là. Quand on demande à Dieu de régler nos problèmes et ceux des autres, nous demandons à Dieu de faire notre volonté. Fait que tout ce que j'ai à faire quand je prie pour les autres, je prie pour qu'eux autres trouvent ce que la volonté de Dieu est pour eux autres. Puis quand je prie pour moi, bien, je prie pour que Dieu me montre la volonté, sa volonté pour moi. Jamais je veux imposer ma volonté. Puis on a tendance à faire ça. Dit, ben, je voudrais qu'elle guérisse, je voudrais que lui ait plus de mal. Je voudrais que... Non, c'est pas ça la vérité. Je demande juste qu'ils connaissent la volonté de Dieu à leurs égards. Là, ben, on est rendu à la 12e étape, au secours des autres. Je pense que je vais lire juste le résumé si j'ai des affaires. Peut-être que je vais vous donner juste des pages. Pour ceux qui sont intéressés, là, on va lire la 12e étape, puis dans le 12 par 12, puis je vais vous donner les pages qui nous décrivent ça dans le 12 par 12. La 12e étape, il nous dit, ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes. Mais cette première partie-là, c'est de la page 121 à 125 dans le 12 par 12. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, page 121 à 125. Après ça, la deuxième partie, nous avons alors essayé de transmettre ce message à d'autres alcooliques. C'est de la page 125 à 127. On va aller essayer de transmettre ce message. Il n'y a pas 50 messages, il y en a juste un. C'est quoi le message des alcooliques anonymes? C'est si vous faites vos 11 premières étapes, vous allez avoir ce réveil spirituel-là. C'est juste ça le message. Après ça, la troisième partie, qui est de la page 127 à la fin du chapitre, à 143, il nous montre comment mettre ça en pratique, ces principes-là, dans tous les domaines de notre vie. C'est une grande aide. On ne fait pas nos étapes avec le 12 par 12, mais il y a beaucoup d'aide quand on fait nos étapes à les lire le 12 par 12. Puis cette dernière partie-là, de mettre ces principes-là en pratique dans tous les domaines, il nous donne toutes sortes d'exemples très, très, très fructueuses pour... comment faire cette 12e étape-là, comment aller appliquer ça dans tous les domaines de ma vie. Parce que souvent, on nous demande, moi, je suis un addict, moi, je suis un alcoolique, moi, je suis un gambler, comment je vais faire pour régler tout ça? Bien, là, on s'est aperçu qu'on peut régler tous nos problèmes, comme Fred, il nous l'a dit, avec ces étapes-là. Quand on fait la quatrième à la neuvième étape, on ne parle pas d'une étape spécifique, on ne parle pas d'une addiction spécifique. Toutes nos addictions embarquent là-dedans. C'est pour ça qu'on va tout régler, quelles que soient nos addictions. Le gros livre a été écrit pour les alcooliques, mais ils nous ont lu au début que c'est fait pour tout le monde. C'est fait pour tout le monde pour se débarrasser de n'importe quelle addiction ou pour se débarrasser de toutes nos addictions. Je veux juste aller voir ce que Fred, il nous disait quand... j'aime beaucoup ce passage-là. C'est la page 48, ce que Fred nous dit. Là, il nous dit, il demandait les étapes, demandait que je jette par-dessus bord plusieurs de mes croyances de toujours. C'était pas facile. C'est pas facile de changer la conception que j'ai de Dieu. Et souvent, le monde, il me retourne avec ça, il dit, tu ne changeras pas mon bon Dieu. On ne veut pas changer ton bon Dieu, on veut juste changer la conception. C'est ta conception qui est erronée. Dieu, il n'est pas erroné, mais le Dieu que j'avais, il était erroné parce que ma conception était fausse. Aujourd'hui, j'ai une conception efficace. Puis là, à page 48, Fred, il nous dit, à partir du moment où j'ai pris la décision de m'engager dans le programme, c'est quoi s'engager? Décider, oui, je vais aller faire des étapes, je vais les faire avec quelqu'un qui les a déjà faites. Okay? J'ai eu le sentiment curieux d'être soulagé de ma condition d'alcoolique. Mais ça, c'est la condition de n'importe quelle addiction, il va se faire soulager. J'ai eu ma condition d'alcoolique, ça s'est avéré que c'était le cas. La phrase suivante, il nous le dit. Tout aussi important fut la découverte des principes spirituels comme résultat à tous mes problèmes. Au lieu du mot problème, moi, je mets addiction. Comme solution à toutes mes addictions. C'est ça que ça fait pour moi. C'est pas juste l'addiction, que ce soit n'importe quelle addiction. Moi, dans mon cas, je les ai toutes. Mais celle que je me suis identifiée le premier, c'est avec Alcoolique Anonyme. Mais à faire mes étapes, je me suis aperçu que je les avais toutes, ces addictions-là. Mais avec les étapes, je peux me débarrasser de toutes ces addictions-là, quelles que soient mes addictions. C'est pour ça que je trouve tellement important ces paragraphes-là à page 48. Puis j'aime ça le répéter parce que c'est tellement important. C'est un tournant de notre vie, comme ils disent, mais le tournant de notre vie, c'est le jour qu'on peut avoir une conception différente de ce qu'on avait de cet être suprême-là. Puis on va finir par avoir une vie joyeuse, heureuse et libre, comme il nous l'enseigne. La page 101 dans le gros livre, il nous parle d'au secours des autres. Moi, je vous le dis tout le temps, les premiers 100 pages, plus l'opinion du médecin, on fait les 11 premières étapes. Après ça, j'ai l'étape 12, c'est une étape gratuite. Si j'ai fait mes 11 premières étapes, je vais avoir ce réveil spirituel-là, puis je vais être capable d'aller le dire aux autres, et puis d'aller appliquer ça dans tous les domaines de ma vie. Je vais vous lire ce qu'ils nous disent. Il y a un paquet de promesses là-dedans, encore du premier paragraphe. Ceux qui aiment ça, les promesses, ceux qui veulent en prendre note. Il y a un paquet de promesses dans la page 101. Là. L'expérience démontre que rien n'immunise mieux contre l'alcool que de travailler intensément auprès d'un autre alcoolique. Si on a des troubles, si on a de la misère à rester sobre, ou à, quelle que soit notre addiction, bien, on va aller donner du temps à plus de monde. C'est ça qu'ils nous disent, c'est ça qui immunise le mieux. Cette méthode fonctionne là où d'autres sont inefficaces. C'est notre 12e suggestion. Transmettre ce message à d'autres alcooliques. Vous pouvez être utile là où personne ne peut réussir. C'est une promesse aussi. Vous pouvez gagner leur confiance quand personne d'autre n'y parvient pas. N'oubliez pas qu'il s'agit de grands malades. Vous trouverez un sens nouveau à la vie. Toutes des promesses. Voir des gens se rétablir et apporter l'aide aux autres, ne plus connaître la solitude, autre promesse. Voir grandir un groupe autour de vous, avoir une foule d'amis, voir une expérience à ne pas manquer. C'est plein de promesses. Nous croyons que vous ne voudrez pas laisser passer de cette chance. Le contact fréquent avec les nouveaux et avec les autres, c'est ce qui illumine notre vie. Aujourd'hui, on ne peut pas, peut-être, commence à avoir des meetings ouverts un peu, on ne peut pas avoir la chaleur humaine, mais merci mon Dieu qu'avec le Zoom, on peut se reconnaître, on peut se rassembler, puis on peut profiter de notre programme de vie. Je vais aller vous lire plus le résumé parce qu'il nous reste juste une semaine, à part d'aujourd'hui, là. Fait que je vais aller lire le résumé d'Au secours des autres, puis peut-être le résumé aux conjoints, puis peut-être si on a des commentaires à faire là-dessus aussi. Ils nous disent, comme on l'a lu, le rien n'immunise mieux contre l'alcool que de travailler intensément auprès des autres. Les aider à faire leurs étapes. C'est ça qui va nous récompenser le plus le jour qu'on peut avoir une filleule ou un filleul, qu'on peut les aider à faire leurs étapes. Ça nous ravive tellement. Transmettre ce message-là. Trouver un alcoolique qui veut se rétablir. Puis souvent, on va les rencontrer dans les meetings, ces nouveaux-là, parce que dans le livre, ils nous disent d'aller voir un docteur, mais ça marche encore dans les pays qui ne sont pas développés, mais les pays développés comme le Canada, les États-Unis, on ne peut pas demander un docteur, il n'y a pas le droit de nous en référer. Mais on va dans les meetings, on voit quelqu'un qui a l'air à s'assurer tout seul, à ne pas s'associer, on va aller le voir, on va les questionner si c'est la première fois, puis comment que ça va, puis comment qu'on peut les aider. C'est là que moi, je fais beaucoup de meetings pour cette raison-là, pour connaître des nouveaux. S'il ne veut pas faire ses étapes, ne perdez pas votre temps avec lui. C'est peut-être, j'ai reçu vos numéros de téléphone, on peut être amis, mais s'il ne veut pas faire des étapes, il n'y a pas grand-chose que. Mon parrain me disait tout le temps, moi, il y a que ça que je connais. Je ne peux pas t'aider à d'autres choses, il y a juste ça que je connais. Puis quand je parraine des gens, c'est ça que je lui dis aussi. Moi, je ne peux pas t'aider ailleurs, il y a juste ça que je connais. Là, je ne connais pas ça. Mais les étapes, je suis conscient que je les connais. Puis prenez votre temps. Et s'il veut, il faut qu'il soit prêt à tout faire pour s'en sortir. S'il n'est pas prêt à tout faire, il va décrocher à moitié chemin. C'est sûr, mais qu'il arrive à l'étape 4 ou même à la fin de l'étape 1, quand on commence à parler de Dieu, ils vont débarquer. On a le droit de demander, es-tu prêt à tout faire ce qu'il y a à faire pour t'en sortir? Puis moi, je lui dis tout le temps, je ne te ferai jamais faire quelque chose qu'on ne m'a pas fait faire, puis je ne te ferai jamais faire quelque chose qui n'est pas écrit dans notre littérature. Surtout dans le gros livre, dans le 12 par 12. S'il boit tous les jours, on demande qu'il se fasse hospitaliser. C'est sérieux parce que aller se faire désintoxiquer, c'est très important. Une personne peut en mourir. Ce n'est pas ma job à désintoxiquer personne. C'est de l'envoyer à l'hôpital, se faire désintoxiquer. Puis après ça, on peut commencer à travailler avec eux autres. Le médecin peut l'informer de sa conduite alcoolique. Le médecin va y informer que c'est plus sérieux qu'il pense à se faire désintoxiquer. Ce n'est pas juste une marche à suivre. Puis après ça, on peut lui parler de nos expériences de buveurs, puis les encourager à parler d'eux autres mêmes, puis insister sur les ennuis que l'alcool nous a causés, les souffrances, les humiliations qu'on a subies ou fait subir à cause de notre alcoolisme. Parler de vos expériences de buveurs, puis encourager à parler de lui. Insister sur les ennuis que l'alcool vous a causés et les luttes que vous avez faites pour essayer d'arrêter de boire, hein, pour essayer de combattre cette obsession-là. L'allergie que ça déclenche. Aussitôt qu'on boit, il a fait comprendre que c'est une maladie à deux phases. Maladie physique, maladie mentale. Maladie mentale, c'est quand je ne bois pas, ma tête elle me dit je peux retourner boire. Puis la maladie physique, c'est aussitôt que je commence à boire, l'allergie se développe, puis je ne peux plus arrêter. S'il est un alcoolique, il va comprendre. Je sais, quand j'ai lu l'opinion du médecin avec mon parrain, j'ai compris que j'étais un alcoolique. Avant ça, je ne le savais pas. Mais quand j'ai lu ça, puis mon parrain m'a expliqué ça, je le savais que j'étais un. Il parlait de moi exactement là-dedans. Parlez-en comme une maladie fatale, mais qu'on a trouvé une solution. Avant 1935, il n'y avait pas de solution. Un gars comme moi, je serais mort, ça fait longtemps. C'est une maladie fatale, il n'y a pas de solution. C'est des cas désespérés qui nous disent, c'est des cas que la science ne peut pas rien faire pour nous autres. Okay? Ils disent, allez, racontez-lui ce qui vous est arrivé. Comment vous avez connu AA? Puis ils nous disent, à page 105, là, insister sur l'aspect spirituel. Qu'il peut changer sa condition, sa conception de Dieu, pourvu qu'elle ait une signification pour lui. C'est ça qu'il nous dit, puis c'est ça qu'il faut de nouveau, il faut que tu ailles changer ta conception de Dieu. Si ta conception aurait marché, tu ne serais pas ici avec nous autres. Si tu es ramassé dans une salle d'alcoolique anonyme ou une salle de n'importe quelle organisation, c'est que la conception de Dieu n'était pas adéquate. Fait qu'on va aller trouver une conception qui marche pour nous autres. Puis mon parrain il m'a fait écrire sur une page, c'était quoi la conception que j'avais, pourquoi ça ne marchera pas. Puis une page neuve, c'était quoi, ça serait quoi un Dieu idéal? S'il y en avait un Dieu idéal, ça serait quoi? Puis j'ai été écrit, il faudrait que ça aille mon ami, il faudrait qu'il m'aide quand ça y a le mal. J'ai écrit quelqu'un qui a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est ça ton aide suprême. Prends ça, puis améliore-le. C'est ça que j'ai fait. Puis il faut. Ça a commencé à avoir une signification pour moi, puis l'autre, il n'y avait pas de signification parce que je pensais qu'il était là pour me donner des ordres, puis pour me punir, puis tout. Puis aujourd'hui, je comprends que Dieu, il est là juste pour m'aider, puis juste quand j'y demande. Si je ne demande pas, il grouillera pas. Hein? Mais la vie arrive dans ma vie, puis quand ça va mal, je dis à Dieu, aide-moi. Puis quand la vie est fine avec moi, puis ça va bien, je dis merci, mon Dieu. Merci d'être avec moi dans ces moments-là. Et puis, on nous dit, si on rencontre une personne que c'est un religieux, un pasteur, un prêtre, de quelque sorte que ce soit, il verra pas comment que vous pouvez y aider, mais il va se demander comment que ça marche pour toi, puis ça n'a pas marché pour moi. J'étais un prêtre, j'ai aidé le monde, puis ça n'a pas marché pour moi. J'en ai rencontré plusieurs prêtres, moi, puis des rabbins, puis des pasteurs, qui ont dit qu'ils n'ont jamais réellement rencontré Dieu tant qu'ils n'ont pas rencontré Alcoolique Anonyme. Parce qu'ils ont étudié 6 ans, 8 ans, 10 ans, ils ont étudié pour devenir prêtres, puis les conceptions de Dieu, puis ça n'a pas marché pour eux autres. Parce qu'ils ont tout le temps continué à boire. Ou une autre addiction, les prêtres n'ont pas qu'une addiction de boire aussi, ils ont beaucoup d'autres addictions, pareil comme nous autres. Si les religieux ne verraient pas qu'on a. Il peut penser qu'il n'y a pas besoin de tout le programme. Hein? Les gens, les nouveaux qui arrivent, ils pensent qu'ils regardent ça sur les tableaux, là, les 12 étapes. Ah, moi, celle-là, je vais être bon, celle-là, je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas ça. Il faut lui faire comprendre qu'en fait comprendre que les demi-mesures ne nous ont rien donné. Quand ils nous ont dit ça, en gros, les demi-mesures ne nous ont rien donné, c'est parce qu'il y en a qui ont essayé de faire des choses ou de changer ça, puis ça n'a pas marché, ils ont tourné boire, ils ont tourné dans leurs addictions. Les demi-mesures, ça ne marche pas. Il faut le faire tel qu'il est écrit dans le gros livre. Puis ils nous disent, offrez-lui un gros livre, puis le guider à aller lire l'opinion du médecin. Dans le gros livre, ils nous disent d'aller lire tout le gros livre. Mais un alcoolique qui a un rêve de bras, ce n'est pas sûr qu'il va vouloir aller lire tout le gros livre. Mais si on dit, va lire l'opinion du médecin, puis rappelle-moi. Puis moi, je lui dis, parce que comme j'ai dit à mon parrain quand ça arrivait là, il dit à mon parrain, moi, lire, j'aime pas bien ça. Il dit, c'est les alcooliques, on aime ça boire, on n'aime pas ça lire. Mais il va falloir commencer à lire. Il va lire l'opinion du médecin, puis il lit un paragraphe, ça ne fait pas lire qu'une phrase, puis aussitôt que tu as une chance, tu continues pour éventuellement être capable de comprendre ce qui est écrit là. Offrez-lui l'amitié et la fraternité. S'il ne veut rien savoir, s'il ne veut pas faire des étapes, il ne veut pas aller là, ben, il dit, laisse-le moi répondre, puis tu peux m'appeler quand ça ne va pas bien, puis je vais essayer de t'aider. On le ramène tout le temps aux étapes parce que c'est ça notre porte de sortie. Puis on dit que s'il revient, je vais être là pour l'aider. Je le dis à tout le monde, moi. Je vais être là. Même si tu reviens ou si tu reviens, je vais être là. Okay? Puis il se dit prêt à faire les étapes, mais il nous dit, ayant vécu cette expérience nous-mêmes, il nous dit qu'on a fait nos étapes nous-mêmes, mais vous pouvez l'aider. On peut l'aider, mais il faut les avoir faites, nos étapes. On ne les a pas faites. C'est l'aveugle qui guide l'aveugle. Ce n'est pas trop bon. Okay? Puis après ça, il nous dit, l'alcoolique qui réclame de l'argent ou un abri avant de surmonter le problème d'alcool, ils font fausse route. Okay? On ne peut pas être bien dans notre repos, dans tout, si on ne fait pas nos étapes. Fait que, si ça ne marche pas bien, on fait les étapes jusqu'à ce que ça va bien marcher. Puis là, on va pouvoir participer. Puis ils nous disent, avec ou sans argent, avec ou sans conjoint, avec ou sans emploi, on peut devenir joyeux, heureux et libre. On n'est pas obligé d'être riche, on n'est pas obligé d'être une femme ou un homme, on n'est pas obligé d'avoir un auto. On peut être joyeux, heureux et libre en faisant nos étapes, en comprenant la vie, puis en demandant à Dieu qui nous aide à accepter la vie. L'alcoolique peut se rétablir s'il met Dieu dans sa vie. Si nous sommes spirituellement en forme, nous pouvons accomplir toutes sortes de choses contre-indiquées. Si on fait nos étapes, on demande de l'aide, il y a toutes sortes de choses qui s'est passées et qui continuent de se passer dans ma vie que j'aurais jamais cru que ça se pouvait. Il faut avoir confiance, il faut avoir un Dieu de notre compréhension qui fait du sens pour nous autres, puis on peut lui demander de l'aide pour nous aider à passer à travers des mauvais passages de la vie. Puis il nous dit, si on est alcoolique, si on fait nos étapes, on n'a pas à avoir à éviter les débits de boissons. On ne va pas là comme on faisait avant, mais s'il y a une fête, aller, s'il y a un mariage, s'il y a quelque chose, mais je peux aller n'importe où dans le monde où ce qui sert de la boisson, puis je ne suis pas obligé d'en prendre. Puis si mes 9 premières étapes, ils nous l'ont dit à 10e étape, j'aurais même plus ce goût de boire-là. Là. Si jamais que ça me vient à l'idée, ça va me répugner au lieu de m'attirer. C'est pour ça que je n'ai pas peur d'aller dans ces endroits-là. Mais je n'ai pas d'affaires là. Si je n'ai pas de raison d'être là, je n'y vais pas. Je ne vais pas là pour prendre un 7-Up. Hein. Je vais l'avoir au restaurant du coin où j'ai le dépanneur. Puis ils nous disent, pas avec des endroits, si on n'a pas de bonnes raisons. Nous espérons qu'un jour, la population comprendra l'ampleur et la gravité du problème. C'est pour ça qu'on fait des études de gros livres ouverts à tout le monde. Pour que le plus de monde possible puisse comprendre. Pas obligé d'être un alcoolique pour faire l'étude de gros livres. C'est un mode de vie. Puis on peut aider à tout le monde, puis on peut aider à reconnaître des alcooliques, les amener aux alcooliques anonymes, ou dire d'aller voir ça, ça peut être bon pour eux autres. Description condensée. Je vais aller vous lire dans le 12 par 12, la page 122, 123. Il nous donne une description vite des 12 étapes. Je pense que c'est à propos de lire ça. Après ça, on va changer de chapitre. 122. Je vais aller vous lire ça, ce qu'ils nous disent ici. Là. Juste en bas du milieu de la page 122. Ils nous disent que c'est par la pratique des 12 étapes de notre programme que Léa se prépare à recevoir ce don. Faisons donc brièvement le point sur ce que nous avons essayé d'accomplir jusqu'ici. Une révision des étapes. La première étape nous proposait un étonnant paradoxe. Nous avons découvert qu'il nous était totalement impossible de nous défaire de l'obsession alcoolique sans nous reconnaître d'abord impuissants devant elle. Puisque nous ne pouvions nous ramener nous-mêmes à la raison, nous avons vu à la deuxième étape qu'une puissance supérieure devrait nécessairement le faire pour nous permettre de survivre. C'est directement là, à la deuxième étape, même la solution de la deuxième partie de la première étape, c'est d'en venir à croire. Puis notre deuxième étape, elle nous dit bien, j'en suis venu à croire, elle ne dit pas j'ai toujours cru. Bill nous en parle, je pense que Bill, c'est à la page 12, il nous dit qu'il a toujours cru en être suprême, puis il a toujours bu. Puis à la page 14, son chum est venu le voir, puis il a dit, Bill, ton problème, c'est la conception de Dieu qui est erronée. C'est ça qui est ton trouble. Puis Bill a eu son éclair de génie là, sur le lit, puis tout a changé, sa conception a changé drastiquement sur Dieu, puis il n'a jamais eu goût de boire après ça. Par conséquent, dans la troisième étape, nous avons remis notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Si nous étions athées ou agnostiques, nous avons découvert que pour le moment, notre groupe ou le mouvement dans son ensemble répondait suffisamment à l'idée de la puissance supérieure. Comme on a parlé au début, c'est peut-être que ma conception de Dieu était loin d'être parfaite, mais c'était suffisant pour commencer. Puis en continuant à faire mes étapes, puis bien j'arrive à 11e étape, je vais avoir une conception qui va avoir changé drastiquement. À partir de la quatrième étape, nous avons commencé à chercher en nous-mêmes ce qui avait conduit à la faillite physique, morale et spirituelle. Comment j'en ai venu à faire ça? Nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi. Moral, ça veut dire de ce qu'il y a en dedans de moi, pas ce qu'il y a d'extérieur de moi. En examinant la cinquième étape, nous nous sommes dit qu'il ne suffirait pas de le faire seul notre inventaire. Nous savions qu'il nous fallait abandonner l'habitude de vivre seul avec nos problèmes et que nous devions les confier avec honnêteté à Dieu et à un autre être humain. C'est là que tout commence le déblocage quand j'arrive à la cinquième étape. D'aller dire toutes ces choses-là qui ne sont pas des choses que j'ai faites, que je regrette, ou même je ne regrette pas, j'ai fait des mauvaises choses. Je vais aller dire ça à quelqu'un que je ne connais même pas. Puis c'est ça qui va commencer à faire mon déblocage pour que je puisse devenir joyeux, heureux et libre. Parce que tant que ça est là, ça me bloque la lumière de Dieu. Puis tant que tu me bloques la lumière de Dieu, bien, je ne peux pas faire de progrès. Puis quand je fais une bonne cinquième étape, voir que la bonne personne-là va être capable de me donner des conseils, elle va être capable de me donner des choses à faire pour m'aider à passer à travers de ça. Nous savions qu'il nous fallait abandonner l'habitude de vivre seul avec nos problèmes et nous devions les confier avec honnêteté à Dieu et à un autre être humain. À la sixième étape, plusieurs ont un mouvement de recul. pour la simple raison que nous ne voulions pas voir disparaître tous nos défauts, car certains nous plaisaient beaucoup. Si on aime ça parler des autres ou sentir mieux que les autres, sentir plus fort que les autres, on aime ça, puis ce n'est pas des qualités, c'est des défauts. Nous savions pourtant qu'il fallait en venir à quelques compromis avec le principe fondamental de la sixième étape. Nous avons donc conclu, malgré certaines faiblesses dont nous n'étions pas encore prêts à nous départir, que nous devions au moins consentir à ne pas nous y attacher de façon entêtée et rebelle. Nous nous sommes dit, il y a telle chose que je ne peux pas faire aujourd'hui peut-être, mais je peux arrêter de dire non jamais. C'est ça la sixième étape, c'est qu'il faut aller reconnaître mes défauts, puis aller demander à Dieu d'avoir la volonté de vouloir m'en débarrasser. Parce que tant que je n'ai pas cette volonté-là, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Mes défauts vont rester là, ils vont rester prédominants. Puis quand j'ai des défauts, bien, ça nuit à moi, puis ça nuit à tout le monde autour de moi. Ça nuit à ma relation avec les autres personnes. Alors, dans la septième étape, nous avons humblement demandé à Dieu de faire disparaître nos défauts dans la mesure où il le voulait ou le pouvait, selon nos dispositions le jour de notre demande. Je me rappelle de l'avoir faite la première fois, puis je me rappelle de l'avoir faite aujourd'hui, puis je continue de la faire, la septième étape. Aussitôt que je fais une erreur, je fais quoi que je ne suis pas fier de moi, je me dis, mon Dieu, aidez-moi à plus faire ça. Je ne veux plus vivre de même, je ne veux plus faire de mal à personne autour de moi. Aide-moi à plus faire ces choses-là. Puis la huitième étape, nous avons poursuivi le nettoyage, car nous avons constaté que nous n'étions pas en conflit seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec d'autres personnes et situations de notre environnement. Nous devons commencer à faire la paix avec nous-mêmes, et pour y arriver, nous avons dressé la liste des personnes que nous avons lésées, et nous sommes disposés à réparer nos torts. La huitième étape, ce n'est pas d'aller faire des amendes honorables, c'est de me préparer. Si j'ai fait une quatrième étape, comme on l'enseigne dans le gros livre, j'ai déjà ma liste de toutes les personnes à qui j'ai fait du tort. Puis j'ai écrit sur un bord, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? L'autre bord, j'ai écrit comment j'aurais dû faire à la place. Puis là, dans le bas de la page, je vais aller écrire comment je vais aller faire cette amende honorable-là à ces gens-là. Puis nous avons donné suite à cette résolution, la résolution d'aller réparer nos torts. Dans la neuvième étape, en réparant nos torts directement auprès des personnes concernées, sauf si cela devrait leur nuire ou nuire à d'autres. Je n'ai pas le droit d'aller dire des choses pour me soulager, pour faire plus de mal encore. Il faut que je parle de ça avec mon parrain, ma marraine, mon guide spirituel, avant de faire n'importe quelle amende honorable, je devrais me confier à ces personnes-là. Nous étions rendus à la dixième étape où commençait à s'établir une base de vie quotidienne et nous avons pris fortement conscience de la nécessité de poursuivre notre inventaire personnel et d'avouer nos torts au fur et à mesure. Je deviens conscient que je fais des erreurs, je vais continuer à faire des erreurs, j'espère que je vais en faire de moins en moins, mais il faut que je me conscientise de ça. Puis c'est ça que j'ai mon trouble, c'est pas de faire des amendes honorables, c'est de m'en apercevoir qu'il faut que j'en fasse. C'est pour ça que je faut que je fasse toutes les soirs, faire une résolution de ma journée pour aller voir sur quoi j'ai fait de pas correct dans le jour, puis demander à Dieu qu'il m'aide à me corriger de ça. À la onzième étape, nous réalisions que s'il était vrai qu'une puissance supérieure nous avait rendu la raison et nous avait rendu capables de vivre avec une certaine paix d'esprit dans un monde grandement bouleversé, alors il fallait la peine de mieux connaître cette puissance supérieure par un contact aussi direct que possible. L'usage persévérant de la prière et de la méditation, avons-nous constaté, ouvrait pleinement le canal au point que s'il n'y coulait jadis qu'un mince filet d'eau, c'était maintenant un fleuve qui nous mènerait jusqu'à la puissance certaine et à la lumière de Dieu, telle que nous pouvions de mieux en mieux le comprendre. C'est sûr que la semaine passée, on l'a fait la 11e étape, puis je pense qu'on l'a fait bien comme il faut, on l'a fait fort pour qu'on puisse la comprendre le mieux possible. C'est ça la 11e étape, c'est de m'en tenir à ça, d'aller voir mes défauts, d'aller remettre mes défauts, puis demander à Dieu qu'il m'aide à passer à travers de ça. Puis quand la vie n'est pas fine avec moi, je dis à Dieu, aide-moi à passer à travers de ça. Puis ça marche. Ça marche tout le temps. Tu sais, des fois, j'ai des fioles qui m'appellent, ils disent, ben là, ça y est, ça ne marche pas. Non, c'est parce que tu as essayé. Il ne faut pas t'essayer, il faut que tu continues. Continue tant que ça ne marchera pas, puis ça va finir par marcher. C'est une des plus grosses promesses qu'il y a dans le gros livre. Ça va marcher, il faut que tu continues à le faire. Des fois, c'est 2 minutes, des fois, c'est 10 minutes, des fois, c'est 2 heures, des fois, c'est 2 jours, des fois, c'est 2 semaines. Mais il ne faut pas que tu arrêtes de demander de l'aide, puis tu vas l'avoir. Ainsi donc, la pratique de ces étapes nous a conduit à un réveil spirituel. C'est ça, un réveil dont la réalité ne nous laissait en fin de compte aucun doute. Moi, j'ai aucun doute aujourd'hui. Je le sais que Dieu est dans ma vie. Je le sais que j'ai un Dieu efficace, une compréhension très efficace de cet être suprême-là aujourd'hui. Chez ceux qui étaient à leur début et qui doutaient encore d'eux-mêmes, nous pouvions voir s'opérer les changements. Nous basant sur un grand nombre d'expériences semblables, nous pouvions prédire que les membres encore sceptiques et qui proclamaient toujours ne pas avoir de tendance spirituelle, persistant à considérer leur cher groupe des A comme leur puissance supérieure, en viendraient effectivement à aimer Dieu et à l'appeler par son nom. Puis la seule façon que je peux arriver à ça, c'est à faire les étapes. Mais je ne sais pas combien il y a de monde dans toutes nos meetings, dans tous les paliers des meetings, du monde qui n'ont jamais fait les étapes d'après le gros livre, puis qui pensent qu'ils ont fait, puis ils ne sont pas joyeux, heureux et libres, puis ils disent que ça ne marche pas, oh oui, puis ils ne savent pas pourquoi que ça ne marche pas. Mais si vous faites vos étapes avec quelqu'un qui les a faites telles qu'ils sont écrites dans le gros livre, le résultat est infaillible. Le docteur Bob, il dit, ça ne rate jamais. Il ne dit pas des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ça ne rate jamais. Qu'en est-il maintenant du reste de la 12e étape? L'énergie formidable qui s'en dégage et l'élan empressé de transmettre son message à d'autres alcooliques qui souffrent encore et qui traduit ainsi en action les 12 étapes dans tous les domaines de notre vie est la récompense et la magnifique réalité des alcooliques anonymes. Comme résultat de ces étapes, vous allez connaître une vie spirituelle, vous allez connaître quelque chose que rien que pu vous donner dans la vie. Moi, j'ai toutes les addictions possibles, je les ai toutes pratiquées, puis aucune de ces addictions-là qui m'a donné la satisfaction que les 12 étapes m'ont donné dans le mode de vie des alcooliques anonymes. Ça fait un résumé de... J'aime bien ça dans le 12-12, qu'est-ce qu'il nous montre là-dessus. Au secours des autres, on est à 8h15, on va aller lire aux conjoints. J'ai fait des résumés pour qu'on puisse finir, parce qu'on finira pas. Fait qu'on va faire au moins le chapitre aux conjoints, qui est notre chapitre 8, que Bill il a écrit, mais que sa femme s'est chicanée avec lui, parce que c'est elle qui voulait écrire ça, puis Bill n'a pas voulu qu'elle l'écrive. Fait que Bill il a écrit ça comme s'il serait une femme. Ils nous disent aux conjoints, chapitre 8, la page 118 à 137. L'attitude à prendre pour une personne dont le conjoint essaie de se rétablir. Okay? Quelle attitude qu'on devra prendre, quelle attitude que les conjoints devraient, ou le conjoint devra prendre. On se rend compte de tout ce que leur conjoint, on se rend compte de tout ce que leur conjoint alcoolique leur fait vivre. Mais que notre manque de compréhension de leur maladie a contribué à nous rendre malades nous autres-mêmes. C'est ça qu'ils nous disent, c'est que les conjointes ou les conjoints se sont rendus malades à essayer de corriger leur conjoint alcoolique sans s'en rendre compte. Hein? Puis ils vont donner des façons d'arrêter ça. Comment l'alcoolique pourrait-il être aussi aveugle avec leurs enfants, leur famille, le travail? Ces paroles, gestes épouvantables dus à sa maladie et à son esprit faussé. Ils nous disent, traitez-le comme une personne malade. On dit au conjoint, la conjointe, les traiter comme ces gens-là, comme des personnes malades. À moins qu'ils en prennent trop avantage. Si on va les dorloter, on va essayer de faire du bien, puis ils prennent juste, ils ne veulent pas s'établir, ils vont juste prendre avantage de ça, bien, il faut changer notre façon d'agir. La première condition pour réussir est de ne jamais vous mettre en colère. Détachement avec amour, j'ai marqué, puis les groupes à l'annonce, si vous êtes jamais aller d'un groupe anonyme, je vous suggère d'y aller parce qu'il n'y a à peu près pas personne qui n'a pas connu un alcoolique dans sa vie. Puis ces personnes, si vous avez connu un alcoolique, les anonymes peuvent vous aider de beaucoup. Puis j'ai trois sœurs qui sont à l'anonyme. Je les admire, mes sœurs. Puis quand j'ai une chance de faire un meeting, je vais faire un meeting avec eux autres. Parce qu'ils nous montrent comment se détacher avec amour au lieu de chicaner puis partir des cancans puis tout ça. Ils nous disent de ne pas leur indiquer sa conduite face à l'alcool. Ils parlent de la conjointe tout le temps, le conjoint. Vous pouvez mener une vie utile, même si le conjoint continue de boire ou la conjointe continue de boire. Gardez-vous de le critiquer. Suggérez-lui de lire l'opinion du médecin dans le gros livre. Il n'y a rien de mal à dire. Moi, j'ai un gros livre ici, puis on parle d'une maladie. J'aimerais ça que tu ailles lire ça. Mais tu as une chance, quand ils sont à jeun, allez lire ce chapitre-là. Si vous faites vos étapes, on parle encore au conjoint ou à la conjointe, et aider les autres à travers les alanons, il peut vous voir changer et vouloir changer lui aussi. Laissez-le décider par lui-même ou par elle-même. S'il peut lire ce livre, ça peut lui donner confiance. Il fait lire l'opinion du médecin, puis après ça, autre donnée sur l'alcoolisme, ça nous fait comprendre pas mal c'est quoi la maladie. Le fait de dévoiler à vos amis, à vos enfants, et à vos conjoints, que votre conjoint est malade, c'est au lieu de le cacher comme tout le monde essaie de faire, bien, allez-y ouvertement. Vous l'avez dit à votre mari ou à votre femme qui est un alcoolique. Mais maintenant, il faut le faire comprendre aux enfants, puis le faire comprendre aux amis, parce qu'il vient temps qu'on vit seul, si on est conjoint, conjoint d'un alcoolique, on vit seul, puis on a peur de tout le monde. Mais le jour qu'on peut s'ouvrir, puis Dieu dit, c'est pour ça qu'on suggère beaucoup d'aller à l'annon, parce qu'ils vont donner une façon pratique d'aller vous libérer de ça. Vous n'avez plus à mentir aux employeurs ou aux autres personnes. Vous n'avez plus besoin, le chat est sorti du sac. Vous pouvez le dire, Esther, mon mari ou ma femme est malade, elle souffre d'alcoolisme. Ça vient de s'éteindre. C'est pour ça qu'elle ne performe pas comme elle devrait ou ne fait pas ce qu'elle est supposée faire. Si Dieu peut résoudre l'alcoolisme, il peut aussi résoudre vos problèmes de plus en plus. De ne plus vous engueuler, d'avoir de la patience et de la tolérance. Ça ne donne à rien de se battre avec un alcoolique, vous ne pouvez pas gagner. Et que la seule chose, c'est qu'on se retire de la situation. Si vous avez la chance d'aller à l'annon, comme vous dites, ou de. Puis ils nous disent que patient tolérant, vive et laissez vivre. Si votre conjoint se rétablit, il doit travailler au rétablissement d'autres alcooliques. Mais c'est certain, si votre conjointe se rétablit, parce qu'elle se trouve qu'elle y aille aider les autres, bien, arrêtez pas d'y aller aider les autres. C'est ça qu'il faut qu'il fasse ou qu'elle fasse. Il va s'absenter de la maison. Peut-être qu'ils ne sont pas plus à la maison, mais au moins, ils vont être une place sûre, puis ils vont aider d'autres personnes. Vous découvrirez de nouveaux passe-temps que vous ferez ensemble avec votre conjoint, votre conjointe. Vous vivrez une vie meilleure. Puis s'il y a une rechute ou elle a une rechute, aidez-y à se reprendre. Remettez ce problème à Dieu. Demandez à Dieu qu'il aide à comprendre ce que c'est qui ne marche pas. Ce que nous écrivons vit de notre expérience. Ce qui est écrit là-dedans, c'est l'expérience que les 100 premiers membres ont vécu, puis ils sont mis ensemble pour dire ce que c'est qu'ils ont fait vivre à conjoint et à conjoint. Pour votre bénéfice, j'ai marqué « Allez joindre à l'annon ». L'annon a été fondée en 1952 par Louis, la femme habile, et Anne, qui n'était pas la femme de Bob, s'appelait Anne, mais elle était morte dans ce temps-là. C'est un autre Anne. Puis les Alatés, nous autres, qui ont été formés en 1957. Je pense qu'on va lire un autre chapitre qui est la famille et l'établissement. Puis encore là, tous ces chapitres-là sont là pour nous donner des comment agir ou réagir avec la vie d'un alcoolique. Donne des lignes de conduite à faire pour que ça y aille du mieux possible dans le foyer. La famille et l'établissement, qui est notre chapitre 9, la page 138 à 153. Tous les membres vont faire preuve de tolérance, d'amour et de compréhension. Tous les membres de la famille, plus l'alcoolique lui-même. Si on exige trop, on a des ressentiments et chaque membre de la famille doit apporter son aide et non prendre avantage. Quand on voit que quelqu'un est défaillant, l'alcoolique essaie de se remettre, peut-être qu'il est plus facile à manipuler. Mais c'est pas, l'idée, c'est pas de le manipuler, c'est d'essayer de l'aider le mieux possible, le plus vite possible. Si l'alcoolique se rétablit, il en sortira une nouvelle personne qui avant peut-être travaillait-il trop. Les ennuis du passé feront surface parce qu'il y a eu des troubles. Ça peut revenir dans la famille. On devra en parler avec la famille et aller aider les autres familles. Si on a des troubles, on sait que ça s'en vient. L'alcoolique va s'asseoir avec les enfants, avec la femme, à l'expliquer pourquoi j'ai ces problèmes-là, parce que j'ai fait quand j'étais en état de boisson ou quelle que soit ma dépendance. Puis aller s'en remettre à la grâce de Dieu. Une fois qu'on a revisé le passé, l'accepter et ne pas y revenir, surtout quand on est en colère ou qu'on n'est pas de bonne humeur, on va aller répéter, on va aller y remettre sur le nez ce que c'est qu'elle a fait ou qu'il a fait avant. Quand il l'a déclaré, il l'a confessé, il a dit c'est ça, je ne suis plus de même, je ne veux plus être de même. Puis si on se fâche après, bien, une étape de colère, on peut ramener ça sur le tapis. Puis il nous suggère de jamais faire ça. Peut-être qu'on va avoir à se séparer. Hein? On va avoir une séparation. La vie ne sera pas la même qu'avant, c'est sûr. Il peut y avoir des rechutes. On ne doit pas se raconter la vie intime de l'autre. Si j'ai eu des moments avec une autre femme, et partir avec une autre femme ou quelque chose, bien, je ne vais pas aller répéter ça. Ni se moquer ou critiquer. Nous sommes des gens susceptibles. Les alcooliques, on est susceptibles. Il n'y a pas les alcooliques qui sont susceptibles, tout le monde l'est. Mais nous autres, on dirait qu'on se blesse plus facilement, on se laisse blesser. Quelqu'un nous regarde de travers, ou on rentre d'une salle, il y a quelqu'un qui ne nous regarde pas, on pense qu'elle nous en veut. Hein? C'est de même qu'on est susceptible. Il faut faire attention si on est au courant de ça. Bien, pas prendre tout pour acquis. L'alcoolique ne doit pas passer tout son temps à redresser ses affaires ou à son rétablissement et négliger sa famille. Il doit partager son temps. On ne dit pas de critiquer sur son. On ne parle jamais, on ne dit pas ah, t'as un beau programme, toi là, t'as un bon programme. Non, c'est pas ça qu'il y a à faire. On va l'aider, on va avoir notre propre programme nous-mêmes, essayer de s'en tenir à ça. Et féliciter pour son progrès. Peut-être qu'il y a un fautif, il y a une faute qu'il a déjà faite avant. On va le féliciter parce que ça fait 2 semaines ou 2 mois qu'il n'a pas fait ça. Mais merci, mon Dieu, merci. Puis avoir de l'amour et tolérance. Se rappeler que le bien-être matériel vient toujours après le progrès spirituel. Le bien-être matériel n'arrive pas avant. On a une tendance à vouloir ramasser de l'argent puis se refaire tout de suite. Mais si on va faire nos étapes, on va être dans un bien meilleur contexte d'aller se reprendre physiquement puis manuellement, matériellement. C'est pour ça que se rappeler toujours que le bien-être matériel vient toujours après le progrès spirituel, jamais avant. L'alcoolique doit démontrer générosité et amour envers les siens et discuter ensemble de nos attentes. Tu sais, si on veut avoir obtenu quelque chose, on s'assied en famille, on en parle. On aimerait ça avoir peut-être une nouvelle voiture ou la peinture de la maison. On fait n'importe quoi, mais on en parle avec la famille, que ça soit ouvert. Puis ça nous donne une chance de s'en sortir aussi. C'est bien important. Tu sais, ces choses-là, elles ont été écrites pour une bonne raison. L'alcoolique ne doit pas, s'il y a un réveil spirituel énorme, exiger que sa famille s'y conforme. Tu sais, comme Bill, il y a eu un gros réveil spirituel. Apparemment, il y en a d'autres qui ont eu des gros réveils spirituels. Là. Comme moi, ça allait arriver en douceur. Ça a pris peut-être une base de 2 à 6 mois avant que j'aie ce réveil spirituel-là, peut-être même plus longtemps. Mais si j'ai un gros réveil spirituel, bien, je ne peux pas forcer ma famille, exiger ma famille qu'il fasse ça, parce que ça arrive pas de même, ça arrive de même à très peu de personnes. C'est ça, si on a un réveil spirituel énorme, on ne peut pas exiger que sa famille nous suive là-dedans tout de suite. La famille peut être jalouse de ce que Dieu, qu'il l'a guéri en peu de temps, ce que la famille n'a jamais pu faire. Et la famille peut être jalouse qui essaie d'aider le père ou la mère de beaucoup, puis ça a vraiment marché, ça fait des années qu'il essaye. Finalement, il rentre dans l'alcoolique anonyme, puis il y a un éveil spirituel, puis tout est changé. Ça peut vexer du monde. Si la famille coopère, l'alcoolique se rendra compte de ses valeurs déplacées et y remédiera. Et la famille en bénéficiera. S'il s'aperçoit l'alcoolique, qu'il est trop dans son être, dans son spirituel, il parle rien de ça, puis tout le temps il est là-dedans, bien, il va finir par s'en rendre compte que ses valeurs sont déplacées. C'est mieux que ce qu'il était avant, mais c'est pas trop bien si on fait rien de ça non plus. Ils nous disent en gros, il n'y a pas personne qui devra faire ça à 100%. Au bénéfice, okay. Même si l'alcoolique ne met pas en pratique toutes les étapes, la famille devra adopter un programme de spiritualité et bien vivre. Même si l'alcoolique n'a pas tout fait ses étapes, il n'a pas tout fait, mais ça n'empêche pas la famille d'y faire, les alatines, les alanons, d'aller faire leurs étapes, puis après ça, ils vont pouvoir en profiter. L'alcoolique voudra se reprendre son rôle d'autrefois, et toute la famille devra faire des concessions. Certains, si l'alcoolique, c'est pas lui qui menait depuis longtemps, il se faisait amener, puis là, il commence à s'établir, puis il veut reprendre les guides, mais c'est pas facile. Il faut s'asseoir avec la famille, puis en parler. Moi, j'aimerais ça demain, essayer de faire, prendre en charge de ça ou ça, puis faire des concessions. La famille doit faire des concessions, tout le monde doit en faire. Procéder à, après ça, aller aider d'autres familles. Tu sais, si on a des amis d'en haut, bien, ces gens-là, ils ont des familles qui ont besoin d'aide. On va aller les aider. Aider d'autres familles. La joie de vivre doit renaître. Si on fait ça, on va commencer à avoir du plaisir à vivre. Dieu nous veut heureux, joyeux et libres. Notre santé physique et mentale devient notre priorité. Dieu a créé des spécialistes. Dieu a créé des psychiatres, des docteurs, toutes sortes de spécialistes, des avocats, et toutes sortes de spécialistes pour nous aider. Fait qu'arrêtons d'essayer de le faire tout seul. Tu sais, le gros livre nous aide, mais le gros livre, il nous met en garde aussi. Il a dit, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ça prend des spécialistes là-dedans. Bien, soyez sans crainte, allez les voir, ces gens-là. Moi, je suis allé voir un psychiatre quand j'allais voir. J'avais été un peu avant, ça ne marchait pas. Puis quand j'allais voir, je suis allé le voir, puis j'étais un bout de temps, puis j'ai fait mes étapes. Puis avant, j'ai fini mes étapes, je ne savais pas qu'il était dans haut, ce psychiatre-là aussi. Puis il m'a dit, Hubert, il n'y a plus rien que je peux faire pour toi. Continue à faire ce que tu fais là, puis tu vas être correct. Puis je me souviens encore de ça. J'ai été obligé d'aller voir quelqu'un d'endroit. Pas parce que je vais commencer à faire mes étapes, mais des fois, ça prend quelque chose de plus profond. Dieu a créé des spécialistes pour nous aider. Il nous suggère aussi de manger des friandises. Moi, j'aimais ça quand j'ai dit ça. Puis je me rappelle quand Joanne avait dit ça, Joanne aimait le chocolat. Ça donnait le droit de manger du chocolat. Des fois, les femmes ont peur de ça parce qu'elles ont peur de mettre du poids. Mais il nous parle de se garder des friandises. Si jamais on a le goût de boire, mais si on a des bonbons, on prend un bonbon, ça va nous enlever ce goût-là. Si on a des problèmes sexuels, on doit consulter. Encore là, peut-être que la boisson m'a rendu différent qu'aujourd'hui, que je n'ai plus le goût de ça, ou je ne veux plus ça, ou quel que ce soit le trouble. On nous dit, allez consulter. Dieu a créé des psychologues, des psychiatres, toutes sortes de gens, des sexuologues qui peuvent nous aider là-dedans. Fait que si ça persiste, bien, faites certain d'aller voir les personnes en conséquence. Pas attendre des années, ça ne donne rien. Si ça ne se passe pas au bout de quelques mois ou quelques semaines, bien, allez voir, consulter. On peut être joyeux, heureux et libre, sans boire, sans tomber dans nos addictions. Ils nous disent, les enfants n'oublient pas facilement, mais ils s'ajusteront graduellement. Les enfants, peut-être qu'ils nous en veulent, ils vont être sur la brosse pour 20 ans, 30 ans de temps, puis là, on veut tout tenir dans la maison. On va faire des réajustements, puis les enfants, ils vont s'ajuster eux autres aussi éventuellement. C'est certain qu'au début, ils ne veulent pas, mais tranquillement, ils vont s'ajuster. Ils ont ajouté graduellement, puis spirituellement aussi. S'ils nous voient aller, je sais, je vais dans un meeting, mais des fois, puis je vois des petits bonhommes, des petites femmes, puis je les revois après ça, 5 ans, 10 ans après, là, puis ils parlent de spiritualité, puis je trouve donc ça beau. Ils ont adopté ça des meetings dehors, puis ils mettent ça dans leur vie. Puis ils nous disent, on recommande la méditation, puis s'en remettre à Dieu. J'espère que toutes vous autres faites votre 30 secondes de méditation tous les jours. Parce que c'est tellement grandiose. Puis, éventuellement, je suis sûr que vous allez en faire plus longtemps, mais donnez-vous une chance. Faites-le sur le siège des toilettes, faites-le n'importe où, mais donnez-vous 30 secondes par jour minimum, tous les jours. Puis, si vous n'y pensez pas une partie de la journée, ce n'est pas écrit de le faire. Il nous suggère de le faire le matin, mais ce n'est pas toujours le temps ou la capacité. Faites-le quand vous pouvez, mais faites-le. Okay? Là, il nous parle de toi. L'important d'abord, vivre, laisser vivre, puis agir aisément. Les trois de nos choses qu'on nous donne d'en haut. On arrive à et demi. Je pense qu'on va laisser ça là. La semaine prochaine, on va lire aux employeurs, puis la vie qui nous attend. Comme toujours, je vous suggère d'aller lire ça, puis aller lire les étapes qui correspondent dans le 12 par 12, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans le 12 par 12 pour nous aider. Ça fait que si vous le voulez bien, ben on va finir le meeting avec la prière de sérénité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître les différences. Merci tout le monde d'être là. J'ai besoin de vous autres. J'ai besoin de vous avoir. J'ai besoin de vous voir. Lâchez-moi pas. J'ai besoin de vous autres.